Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application de podcast préférée. Regard sur l'élément de la géopolitique mondiale qu'est la violence à l'occasion de la parution du rapport final du panel international sur la sortie de la violence, fruit du travail de quelques 100 chercheurs du monde entier. La sortie de la violence comme nouveau thème de recherche et d'analyse face à un phénomène, la violence en pleine transformation, dans un monde globalisé dont les formes se multiplient, en particulier sous l'impulsion d'Internet, n'épargnant pas non plus nos démocraties libérales. Regard sur les évolutions de la violence et ses nouveaux enjeux avec nos invités. Michel Vivorquin, président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, co-responsable du panel international sur la sortie de violence, sociologue, auteur de nombreux ouvrages, dont Pour une démocratie de combat, à paraître le 12 mars prochain chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Mohamed Ali Al-Drawi, chercheur à la London School of Economics et auteur de nombreux ouvrages également, dont le dernier « Comprendre le salafisme » aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Et Bartolomeo Conti, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales et participant au projet européen DER, Dialogue sur la radicalisation et l'égalité. Bonjour.
Bonjour.
Quelques mots pour commencer sur le phénomène de violence. Est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'hier, ou est-ce qu'on ne doit pas finalement constater que la reconnaissance et l'identification de la violence ont évolué en même temps qu'il y a eu un changement profond de sensibilité face à cette violence? Autrement dit, on a fait beaucoup évoluer notre regard même sur la violence, notre façon de la reconnaître. C'est ce que l'on peut dire, Michel Vivorquin.
Plusieurs choses. Premièrement, les historiens qui travaillent sur la longue durée vous diront généralement qu'il y a quand même aujourd'hui, dans l'ensemble, à cette échelle-là, moins de violence que dans le passé, moins de violence meurtrière. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que la violence, elle n'est pas seulement objective. C'est pas simplement le nombre de tués, de femmes violées, etc. La violence, elle est subjective. Elle est ce que vous ou moi, à un moment précis, appelons violence. Et qui peut changer, y compris pour vous ou pour moi, tout à l'heure. Et donc, la violence, c'est ce que nous appelons violence. Et évidemment, nos représentations, nos conceptions changent beaucoup. Donc, on rentre là dans des débats dont on ne sort pas, dont on risque de ne pas sortir. Je crois qu'il y a une question qui peut prolonger celle-ci, qui mérite d'être examinée. C'est la question de la légitimité de la violence. Et là, je vais prendre le cas de la France, mais ça vaut pour d'autres pays. En France, à partir de la fin des années 70, la violence est devenue tabou. La violence autre que celle de l'État. Tous les étudiants en sciences politiques ou en sociologie connaissent une phrase très célèbre de Max Weber qui disait, en gros, l'État a le monopole légitime ou de l'usage légitime de la force, de la violence. Donc ça veut dire que toute violence non étatique n'est pas légitime. Et donc pendant une bonne quarantaine d'années en France, on a vécu avec l'idée que toute autre violence que celle de l'État est illégitime, alors qu'avant, un Jean-Paul Sartre pouvait dire que la violence peut se comprendre. Un Michel Foucault, idem, chacun à sa façon, bien sûr. Donc, on est rentré dans une période où la violence était illégitime quand elle n'était pas celle de l'État. Et puis, depuis quelques années, notre regard change. La violence retrouve une certaine légitimité en dehors de l'État, en même temps d'ailleurs que la violence de l'État est contestée. Je m'explique. D'un côté, on vous dira, l'État exagère, la police réprime les manifestations de façon excessive. Je ne rentre pas dans l'analyse, mais juste la représentation qui existe. Et d'un autre côté, on vous dira, la violence peut payer. Et après tout, les gilets jaunes, s'ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, c'est parce qu'il y a eu des violences, ce genre de choses. Et donc vous voyez, ce n'est pas qu'il y a plus ou moins de violence, c'est qu'il y a une légitimité qui se déplace dans le recours à la violence. C'est peut-être ça qui est un peu nouveau. Et on a vu réapparaître dans un pays comme la France des discours révolutionnaires, insurrectionnalistes, qui n'aurait pas été audible 10 ou 20 ans plus tôt.
Alors, je me tourne vers vous, Mohamed Ali El-Drawi et Bartolomeo Conti. Est-ce que ce déplacement de la légitimité se retrouve finalement dans vos secteurs d'études, peut-être plus particuliers, Mohamed Ali El-Drawi?
Oui, complètement. Parce que comme l'a bien dit Michel, en fait, ça dépend de quoi on parle. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Tout ça, ces questions de violence, de conflictualité, de guerre, d'affrontement, etc., ce n'est pas nouveau. Donc quand on dit qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plus de violence, c'est extrêmement discutable. Vous savez, depuis quelques décennies, universitairement a émergé un champ qu'on appelle la polémologie. Vous savez, de polémos, la guerre, l'étude des conflictualités, l'étude des violences, qui est d'ailleurs en grande partie liée à une tradition française. Mais ça, je pense que ce n'est pas la peine d'en discuter ici. Donc tout dépend de quoi on parle. Parlons-nous d'acteurs ou de violence ou de forme ou d'un cadre étatique ou pas ? Parlons-nous de violences que l'on présente comme légitimes ou pas. Prenons la question, par exemple, des mouvements dits terroristes. Là où beaucoup d'entre eux, je suis prêt à le parier, ça ne surprendra personne, se voient comme des mouvements de résistance. On l'a vu, par exemple, dans le cadre colonial et décolonial. On le voit également aujourd'hui, puisque vous m'avez posé la question sur mes champs d'études, à travers les mouvements politico-religieux au sein de l'islam. Bien, la violence est aussi pour beaucoup d'entre eux une contre-violence. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est un autre débat. Mais la violence initiale n'est en réalité qu'une licorne. Elle n'existe pas puisque tous les mouvements, tous les acteurs, à partir du moment où ils sont membres d'une société politique, d'un champ international, de conflits divers et variés, voient tous la violence comme légitime. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit aujourd'hui même avec les mouvements terroristes. Les mouvements terroristes vous diront la chose suivante. Nous sommes les acteurs et les représentants de communautés humiliées. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui un certain nombre de personnes au niveau transnational s'identifier à des causes. C'est que la violence est à la fois une illustration ou un indicateur de la crise de l'État et aussi un vecteur et un facteur de la crise de l'État. Cette bonne vieille violence, comme en a parlé Michel, celle, vous savez, qui est, comment dire, illustrée par le policier, le soldat, etc. On voit aujourd'hui de nouvelles formes d'acteurs de la violence et d'entrepreneurs de la violence. Et dans ces phénomènes-là, aujourd'hui, il y a un nouveau champ. Donc il est extrêmement compliqué de dire si oui ou non il y a plus de violence ou pas. Mais ce qu'on peut dire pour sûr, eh bien, c'est qu'il y a un nouveau cadre, un nouvel imaginaire de la violence qui aujourd'hui ouvre des champs de recherche extrêmement importants et intéressants.
Bartolomeo Conti.
Moi, je dirais que la violence, aujourd'hui, comme toujours, fait partie de la société. Au fond, la société s'effondre sous la violence. La violence, d'abord, c'est le monopole de la violence de l'État, comme était évoqué, mais aussi les différentes formes de violence sont celles qui construisent les communautés. La communauté, souvent, se base sur des rituels qui rappellent le sang versé par des martyrs, par ceux qui ont été au fondement de la communauté. La communauté nationale, la communauté religieuse, toutes les communautés, au fond, ils rappellent quelque chose qui a à voir avec un acte de violence. Et souvent, par exemple, si on pense au nationalisme, le nationalisme se fonde sur l'idée qu'il y a des personnes qui sont mortes pour défendre une idée, que c'est celle de la nation. Et cette, par exemple, si on pense au moment de la Révolution française, c'est quelque chose qui s'est construit aussi sous les sons. Et ces sons, je pense à la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a différentes formes de violence et de sons versés par ceux qui ont défendu une idée qui constitue la base de notre communauté. Donc, je pense que, d'une manière, penser la société sans violence, c'est quelque chose d'impossible. Simplement, il faut assumer que la violence existe. Une fois qu'on a dit ça, la question, c'est comment, qui exerce la violence? Quels acteurs sont porteurs de violence? Qui sont légitimés à, justement, exercer la violence? Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est aussi une forme de contestation de la légitimité de l'État. Donc, il y a différents acteurs, qu'ils soient individuels, qu'ils soient des petits groupes, qu'ils soient des collectivités, qui, justement, revendiquent la possibilité d'exercer la violence aussi à la place, si on veut, de l'État. On n'attend plus une délégation de l'État, parce que l'État a toujours délégué la violence à des petits sous-groupes, à des personnes. Mais c'est l'État qui avait le monopole. Mais des personnes qui contestent ça. Et aujourd'hui, donc, nous avons des individus qui revendiquent ça. Et notamment, le revendiquent, c'est, si on vient sous mes terrains de recherche, je vois des personnes qui ont subi la violence et qui pensent qu'aujourd'hui, ils doivent restituer la violence. Et donc, ils ont subi notamment la violence, soit sociale, aussi de l'État, des forces de l'ordre, par exemple. J'ai travaillé notamment en prison et j'ai vu plusieurs personnes qui, à un moment donné, ils racontent une vie, une trajectoire marquée par la violence. La violence, c'est familiale, la violence, c'est dans les ghettisations, c'est dans l'impossibilité d'avancer dans la société. C'est la violence qu'on subit dans les rapports avec les institutions. Et souvent, ils disent qu'ils sont légitimés à répondre par la violence.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Michel Vivorca, qu'est-ce que l'utilisation de l'outil violence nous révèle de nos sociétés?
On peut dire beaucoup de choses, bien sûr, dès que le mot violence surgit, parce que d'abord, il faut dire de quelle violence on parle. Ça peut être la violence politique, la violence sociale, la violence de l'État. Ça peut être la violence subie par les femmes, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a des gens aussi qui vous parlent de violence symbolique, c'est-à-dire non pas une violence physique, mais le fait que les dominants imposent tellement leur domination que les dominés intériorisent les catégories des dominants. Pense comme les dominants. Donc si vous pensez comme le dominant, alors vous êtes dominé, vous ne pensez pas, ou vous êtes aliéné. Donc vous voyez, c'est une violence. Donc on peut donner beaucoup de significations. Je crois donc qu'à partir de là, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est quels sont les enjeux les plus visibles aujourd'hui des questions de violence quand elles surgissent dans le débat public. Et je trouve que l'évolution en une trentaine d'années, a été spectaculaire. Je vais juste prendre l'exemple qui est un de ceux que dans notre travail à la Fondation Maison et Sciences de l'Homme, ce rapport qui est la base de notre discussion aujourd'hui, nous a frappé, l'évolution du terrorisme, qui est un phénomène majeur. Il y a une quarantaine d'années, le terrorisme, c'était en gros soit du terrorisme d'extrême gauche, les brigades rouges, ce genre de choses, soit du terrorisme de type nationaliste plus ou moins indépendantiste minoritaire, les Basques, les Irlandais, vous voyez ce genre de phénomène, peut-être les Corses un petit peu aussi. Et puis c'était enfin ce qu'on appelait du terrorisme international, disons un prolongement du mouvement palestinien. Un prolongement parfois en rupture d'ailleurs avec ce qui était le cœur de ce mouvement. C'était ça. Donc c'était non religieux, c'était non martyriste, c'était considéré comme hautement politique. Et puis aujourd'hui, on voit arriver la violence religieuse. Je parle devant Mohamed Ali, qui en dira certainement beaucoup plus que moi. Une violence religieuse qu'on a d'abord imputée presque exclusivement à l'islam, alors qu'on voit très bien dans le monde que l'hindouisme fait des dégâts gigantesques.
Justement, et ça, vous n'en parlez pas hein, dans le rapport avec cette question du nationalisme et de la violence avec la Birmanie, les Rohingyas
Parce que les phénomènes... Vous savez, on a lancé... Alors, j'ouvre une parenthèse. On a lancé ce programme de recherche dans un contexte très singulier, dont je voudrais dire un mot. On a lancé ce grand programme en 2015-2016 avec deux faits. Premièrement, les attentats terroristes en France. Charlie, l'hypercachère, puis 2015. Le Bataclan. Ça vraiment, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et en même temps, on était en relation très étroite en Colombie avec le Centre de la recherche sur la mémoire historique de Bogota, à l'époque un lieu merveilleux, de la plus haute importance pour réfléchir à ces questions, et qui accompagnait d'une certaine façon, sans en être partie prenante, mais enfin, tous les efforts pour un processus de paix qui allait mettre fin à la guérilla des FARC, en tant que guérilla. Non pas pour dire on détruit cet acteur, mais pour dire on le fait rentrer dans le jeu politique. On trouvait ça merveilleux comme idée, d'institutionnaliser le conflit de façon à ce qu'il ne soit plus violent. Et donc on est parti de là. C'était ça les deux préoccupations majeures. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a fait réfléchir ensemble des gens qui travaillaient sur l'islam radical et d'autres qui travaillaient sur la Colombie. C'était pas banal. Et puis d'autres problèmes surgissent, bien sûr. Et puis on n'a pas pu tout envisager. Donc vous avez raison. Mais on aurait pu aussi parler du messianisme juif sioniste extrême qui a abouti à assassiner Rabin, qui continue. On n'a pas parlé de beaucoup d'autres choses.
Dire que la violence est en évolution
mais
permanente.
Mais ça continue. Et... Si vous permettez, je ne veux pas être trop long, bien sûr, mais juste sur un point. C'est que en gros, on a été envahi par cette violence qui se réclame de l'islam radical. Mais il y a d'autres violences religieuses, on vient de le dire, avec l'hindouisme, par exemple. Et il y a des violences non religieuses qui, aujourd'hui, ressurgissent de façon de plus en plus nette. C'est des violences d'extrême droite. Regardez l'Allemagne, ce qui s'est passé ces derniers temps. Et donc, oui, il faut savoir que le phénomène se transforme en même temps que nos représentations bougent aussi.
Alors, vous parliez de l'évolution du terrorisme. Est-ce qu'on peut dire que les attentats qui ont eu cours le 11 septembre 2001 aux États-Unis sont en quelque sorte une sorte de tournant, une rupture, Mohamed Ali Hadraoui?
Alors, clairement, sur le plan symbolique et sur le plan sur lequel on se représente un certain nombre d'évolutions, oui, parce que, en fait, il faut comprendre une chose, je pense, qui est assez simple, mais dont on ne répétera jamais assez l'importance, c'est que la violence est intégrée. Il n'y a pas de violence, si vous me passez l'expression, hors sol. Si moi, je me suis beaucoup intéressé, par exemple, à la question de ce qu'on appelle les djihadistes, on y reviendra certainement au cours de l'émission, ce sont des personnes qui sont dans une démarche morale et politique. Et religieuse, et le solutionnement à leur crise, il est religieux, comme le disait Michel. Mais il ne faut jamais raisonner en termes unidimensionnels. Ce sont des personnes qui vous disent à un moment, nous avons un ennemi. Alors, vous savez, il y a le répertoire aussi de la violence. Nous avons un ennemi, il faut le punir, il a fait tel crime. Eh bien, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de faire mal à sa population un beau matin de septembre 2001 en détournant des avions contre des tours. D'autres personnes, je travaille en ce moment beaucoup, vous savez, sur la politique américaine envers l'islam politique, vous ont dit, quel est le mal? À qui devons-nous aujourd'hui nous opposer? Ce sont des extrémistes politico-religieux. Le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est la démocratie. Donc chacun puise dans son référentiel le meilleur moyen, entre guillemets, de mettre fin au mal. Eh bien, nous allons créer une démocratie en Irak, au milieu du Moyen-Orient, à travers ce qu'on appelait à l'époque la guerre préventive. Donc ça, vous savez, c'est en termes de symbolique, en termes de répertoire, en termes de réflexivité, comment voit-on notre violence ou celle à laquelle on doit faire face? Oui, clairement, vous avez des ruptures. Maintenant, sur un temps plus long auquel on faisait allusion au début d'émission, je ne suis pas certain en réalité qu'il y ait tant de ruptures que cela. Je vous donne un exemple extrêmement précis. L'idée qu'il faille détourner des avions, c'est pas nouveau, ce n'est pas Ben Laden qui l'a inventé. Un grand nombre de groupes le faisaient, j'allais dire, de manière quasi systématique pendant plusieurs décennies. L'idée maintenant de détourner la violence contre la population civile pour lui faire mal en tant que telle, bien c'est pour interpeller l'État, mais aussi pour faire mal et montrer qu'on est capable de porter le conflit jusque sur le territoire de l'ennemi, ça c'est quelque chose de relativement nouveau qui fait, alors on n'a pas encore prononcé le mot ou le concept, mais qui fait référence à l'élément de mondialisation, de globalisation, ce qui fait qu'aujourd'hui le terrain de jeu est devenu global, si on parle par exemple des djihadistes, et en fait leur nationalisme, leur religiosité, fait référence à ce que j'appellerais un nationalisme religieux. L'islam n'est plus uniquement une spiritualité, une foi, c'est une nation politique qui a donc des frontières. Donc si vous envahissez l'Afghanistan, c'est pas l'Afghanistan que vous envahissez, c'est un territoire musulman. Donc de leur point de vue, tous les musulmans doivent réagir en créant une force de combat, une force de réaction violente qui est transnationale. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui un certain nombre de personnes d'Aubervilliers aller rejoindre des personnes de Karachi ou des personnes de Lagos sur le territoire syrien de manière à défendre un territoire musulman contre l'invasion occidentale, contre les méchants chiites, etc., etc. Donc il faut faire interagir ces différents éléments de manière à avoir la compréhension la plus fine aujourd'hui de ce que peut être par exemple le radicalisme religieux d'inspiration musulmane.
Bartolomeo Conti.
Daesh a représenté sûrement une rupture. Pas seulement parce que c'était un territoire qui s'est créé, mais je vais regarder la chose d'une autre perspective, c'est plutôt regarder ceux qui ont rejoint l'État islamique à un moment donné. Je travaillais avec beaucoup de jeunes Français qui sont partis en Syrie, je les rencontrais. Et je pense que ce qui a changé, justement, si on peut dire qu'avant, il y avait une forme d'engagement hautement politique, où on partait d'une conscience de qu'est-ce que c'est les enjeux politiques internationaux. On partait d'une culture politique. On partait de la rhétorique de la décolonisation, de la lutte contre la colonisation. Soit on partait de l'islamisme classique, à la secte qu'on voit apparaître au début des années 2010. C'est un autre type de figure. Ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance religieuse ou politique et qui partent pour des raisons. Donc les drivers, ce qui les pousse, ce qui les motive, c'est quelque chose que des fois on va chercher dans leur parcours. Trajectoire individuelle, familiale. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça, c'est aussi, explique aussi les nombres énormes des jeunes qui sont partis en Syrie ou en Irak. Et tous ceux qui voulaient partir, tous ceux qui étaient fascinés, sont des personnes, au fond, qui n'ont pas de culture politique ni culture religieuse. Et ça, c'est important parce que c'est un vrai changement par rapport au passé. C'est évident, les deux choses, ce n'est pas qu'il y a une rupture. Il y a les choses qui se mélangent. Par exemple, les gens que je rencontre en détention, certains ont une culture politique et religieuse très forte, mais justement, ils viennent d'un autre type de parcours, mais se mélangent avec des jeunes, par exemple, qui n'ont aucune culture. Ça représente une rupture. Ça a le sens qu'à un moment donné, nous avons eu sous les marchés, si on vous dit comme ça, de la radicalité ou de l'engagement, quelque chose qui a fait beaucoup sens à des jeunes qui cherchaient des engagements. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident de comprendre leur trajectoire et tout ça, parce que souvent, quand on va travailler avec eux, on revient sous les racines de leur problématique, leur trajectoire, on voit que les choses sont dans la violence familiale, dans la violence du quartier, dans les logiques de délinquance, dans les logiques d'exclusion de la société, de stigmatisation au sein de la société. On part de là pour arriver jusqu'en Syrie, dans un projet qu'ils connaissent à peine. Ils s'en approprient une fois qu'ils sont sur place. Avant de partir, par exemple, ils ne connaissaient pas. Je pense que là, il y a une vraie rupture. Et c'est pour ça que je pense que c'était un phénomène tout à fait, je ne dis pas nouveau, mais vraiment qui changeait un peu la nature du phénomène par rapport à ce qu'on connaissait avant.
Donc finalement, pas de profil type des personnes radicalisées et la radicalisation qui est un phénomène assez complexe. Très rapidement, pour terminer cette première partie d'émission, Michel Vuorka.
Juste un mot sur le thème de l'échelle de temps à laquelle nous réfléchissons. Sur les 50 ou 60 dernières années, on a le sentiment qu'il y a de la continuité, mais il y a aussi des ruptures. Il y a un auteur très intéressant, un historien qui s'appelle Philippe Buc, qui a publié un livre, je n'ai pas le titre exact en tête, mais enfin en gros, il étudie la très longue durée, vue à partir du christianisme. Et il montre que sur la très longue durée, il y a beaucoup plus de continuité que ce que l'on croit. Et donc ça pose une question intéressante. Sur la moyenne durée ou sur la courte durée, on voit des ruptures, et sur la longue durée, on en voit moins. Donc selon l'échelle temporelle qu'on utilise, on voit les choses très différemment et presque de façon incohérente. C'est une belle question pour nous autres chercheurs, historiens, sociologues.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Michel Vuorka, Mohamed Ali Andraoui et Bartolomeo Conti, après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la violence à l'occasion de la parution du rapport final du panel international sur la sortie de la violence à l'initiative de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Nous retrouvons nos invités. Michel Vivorca, président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, co-responsable du panel international sur la sortie de violence, sociologue, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier à paraître le 12 mars prochain pour une démocratie de combat aux éditions Robert Laffont. Mohamed Ali El-Draoui, chercheur à la London School of Economics et auteur de Comprendre le salafisme aux éditions L'Harmattan, et Bartolomeo Conti, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, participant au projet DER, Dialogue sur la radicalisation et l'égalité. Est-ce qu'on assiste à une multiplication des mouvements qui s'extrémisent aujourd'hui dans le monde, Michel Vivorca ?
Il y a à l'évidence des logiques qu'on appelle parfois de radicalisation, qui peuvent tourner à la violence, mais à autre chose aussi. Mohamed Ali le dira très bien à propos du salafisme. Et tout ça nous indique que nous sommes dans une phase historique où il n'y a pas les modalités de traitement institutionnel des questions sociales, culturelles, économiques, religieuses. Et donc quand il n'y a pas de débat, de négociation, de recherche de compromis, d'institutionnalisation du conflit en quelque sorte, quand tout ça est défaillant, eh bien les demandes se transforment en rage, en colère, en violence parfois. Donc c'est vraiment un moment, une phase si vous voulez, de déstructuration des systèmes institutionnels un peu partout dans le monde.
Alors Mohamed Ali El-Draoui, comment s'explique finalement la radicalisation et quel est le rôle joué par le salafisme ? Pour aller plus loin peut-être, qu'est-ce que l'on peut dire des porosités entre salafisme quiétiste et djihadisme ?
Alors là, c'est la question à un million d'euros, voire plus, si vous me passez cette expression. Alors d'abord, deux définitions, si vous me permettez. On appelle en général salafisme, le sens que ça a pris aujourd'hui, je veux dire. Une matrice fondamentaliste au sein de l'islam qui cherche à faire revivre un modèle de croyance, un modèle de piété, voire un modèle de société et d'État, pour certains, qui était censé avoir été celui des premiers musulmans. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, c'est un autre débat, mais c'est la croyance d'un certain nombre d'acteurs. Donc ça, c'est la matrice. Maintenant, on appelle djihadisme la carrière morale, politique et violente, qui est, si vous voulez, le moyen de mettre en pratique ce dessein de revenir aux sources. Donc à partir de là, se poser la question, personnellement, moi, ça me choque pas, puisque vous avez à l'intérieur de cet univers, au moins sur le plan doctrinal, au moins sur le plan, j'allais dire, du symbole, un certain nombre de similarités. Mais une similarité doctrinale et symbolique ne fait pas nécessairement une porosité sociologique. Donc la conclusion, c'est que quand même aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent sur le salafisme et le djihadisme, et d'ailleurs ça a été l'objet d'un de nos groupes de travail dans le cadre de l'IPIF, du panel international, en Angleterre, en Europe, de manière générale, en France, en Asie, où j'ai vécu, dans le Moyen-Orient bien évidemment, mais aussi dans d'autres pays, il faut retenir une idée importante qui est à titre sociologique l'idée de l'autonomisation. C'est-à-dire l'idée que la carrière violente, ne serait-ce que sur un plan sociologique, c'est-à-dire sur le plan de la trajectoire des acteurs qui sont les premiers concernés, il y a une disconnexion de plus en plus importante entre la radicalité religieuse, le fondamentalisme, le puritanisme d'un côté, et le recours à la violence d'autre part. Et on le voit, je veux dire, on le voit clairement sur un plan statistique, parce qu'on pourra toujours parler d'une personne ça et là, ou d'un petit groupe, mais il faut voir la photo globale. Il y a clairement une disconnexion aujourd'hui. La salafisation, si vous me passez cette expression, n'est pas le préalable nécessaire à la djihadisation. On voit des gens qui viennent d'espaces sociaux différents. Par exemple, la question des convertis. Aujourd'hui, la question des convertis, c'est entre un quart et un tiers des groupes dits djihadistes. C'est la religiosité musulmane la plus, entre guillemets, anthropologiquement ouverte sur le plan des origines sociales. Donc, il y a des choses qui interpellent. Donc, cette idée de l'autonomisation, c'est pour moi la plus importante à titre sociologique. Et maintenant, le deuxième élément, c'est que sur le plan très global du paradigme, de ce qui relève de l'impalpable, d'une certaine manière, il y a aujourd'hui, si vous voulez, et ça on peut difficilement le nier, une prime à la radicalité quelle qu'elle soit. C'est-à-dire les mouvements les plus radicaux, même s'ils ne sont pas violents, même s'ils ne sont pas nécessairement les plus militarisés, les plus vindicatifs, les plus véhéments, sont aujourd'hui parmi les plus, il faut le dire, les plus respectés, les plus admirés, les plus audibles, il faut se poser la question. Donc maintenant, l'interrogation, ça devient pourquoi? Eh bien, je pense qu'il y a aujourd'hui, comment dirais-je, une forme de prime à l'authenticité au transnational. Tout ce qui fait rêver, vous parliez du facteur de la radicalisation, ou des facteurs, parce qu'on imagine bien que c'est pas une question qui va être tranchée en quelques minutes. La nécessité, de mon point de vue, ça nous interpelle, nous chercheurs, il nous faut raisonner en termes extra-pathologiques. Quels sont les problèmes auxquels ils ont été confrontés, le poids des discriminations, le poids de la crise familiale, la crise du politique, la crise de la démocratie, est-ce qu'on devient violent quand on n'a pas les moyens de faire autre chose? Ça, ce sont des questions extrêmement intéressantes. Mais il faut aussi raisonner, à mon avis, par-delà. C'est-à-dire, le djihadisme, c'est une carrière morale. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est c'est une carrière morale. C'est-à-dire ce sont des gens qui croient en une vision du bien et du mal. Ce sont des personnes qui vous disent « je sers ma religion ». En Syrie, je vais aller aider des gens. Vous avez un champ sémantique et un champ lexical de ce qu'on appellerait nous quelque chose de positif. Vous avez une carrière morale, voilà, on va aider, etc. Maintenant, le souci, si on peut dire, c'est que cette carrière morale se déploie de manière violente. Donc il faut raisonner de manière extrêmement subtile et nuancée, de manière à agencer, articuler toutes ces différentes dimensions, et au final, essayer de produire l'analyse la plus circonstanciée et la plus fidèle possible.
Bartolomeo Conti, la radicalisation, c'est aussi une logique d'inscription sociale de l'individu dans le monde ?
Absolument oui, dans le sens que, si je permettais, je voudrais juste revenir un second en arrière sur les religieux. La religion. La religion, pas seulement l'islam, la religion en général, c'est quelque chose de très important pour les individus, évidemment. C'est fondateur de l'identité de beaucoup de personnes dans ce monde. Et l'usage qui est fait du religieux est très varié. Et dans ce sens, quand on parle aussi de cette passerelle entre une religion fondamentaliste, qu'on peut être les salafismes quiétistes et le djihadisme, il faut savoir que souvent, la religion est une forme de structuration pour des personnes qui, à la recherche de normativité. Et dans ce sens, ce que j'ai vu sur le terrain, souvent, le religieux, même dans sa version fondamentaliste, il est une protection vis-à-vis de ce que ça peut dire la violence. Souvent, la religion protège du basculement vers des formes extrêmes de violence. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut faire attention à comment on articule la relation entre salafisme quiétiste et djihadisme. Et après, oui, la radicalité, pour certains, fait sens. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui, au fond, trouvent dans ce qu'ils proposent cette aventure, parce qu'ils parlent en termes d'aventure, cette possibilité d'expression de soi, d'estime de soi, de valorisation de soi, de trouver de nouveaux copains, de trouver des sorties de l'isolement, de sortir du chaos qui est leur vie souvent. Sortir aussi d'une chose, justement c'était évoqué, aussi de l'impossibilité de faire entendre sa voix. Donc d'une manière, pour certains, c'est cette possibilité aussi de faire finalement entendre sa voix, d'exister en tant qu'individu dans un monde qui souvent exclut beaucoup des catégories d'individus, notamment des jeunes, hein, si on prend l'exemple de la France, cantonnés dans pas seulement dans la banlieue, mais aussi dans des cercles vicieux, des prisons, criminalité, impossibilité d'avancer dans leur vie. Et donc, à un moment donné, ce qu'on appelle des parcours où la violence fait partie aussi de logique, elle permet de sortir de cette anomie, de cette inexistence. Et là, on assiste à un clash des conceptions, des sentiments par rapport à ce qu'on appelle la radicalisation. Par exemple, beaucoup de jeunes sont partis en Syrie justement dans l'idée d'aller aider, éventuellement même à combattre contre un criminel, que c'est Bachar al-Assad, pour défendre des personnes, des musulmans, mais pas seulement, hein, dans certains cas, qui souffraient. Et ici, quand des personnes sont allées en Syrie, pour nous, sont déjà condamnées par la justice et mis hors jeu, délégitimées. Donc, il y a aussi une incompréhension sur ce qui sont les finalités des uns et des autres.
Michel Vivorca.
Je pense d'abord que le mot de radicalisation mériterait qu'on s'y arrête un quart de seconde. Je trouve que c'est un drôle de mot qui a pris son essor aux États-Unis avec les attentats du 11 septembre 2001 dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un mot qui a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il insiste sur les dimensions de subjectivité des acteurs. Il se radicalise. Mais le prix à payer pour ça, c'est que ça psychologise, ça dépolitise et parfois même ça psychiatrise l'action dont il est question. Autrement dit, si je dis de quelqu'un « il est radical » ou « il est radicalisé », c'est pas du tout la même chose que si je dis « il fait de la violence politique ». Ça dépolitise beaucoup, d'une certaine façon. Et après, retrouver le sens politique quand il y en a un, on vient d'en avoir un exemple avec Assad, ça devient plus difficile. Donc le mot « radicalisation », il faut s'en méfier. On n'aurait jamais dit des pires terroristes des années 70, des brigades rouges, de la fraction armée rouge allemande, de ces gens-là. On n'aurait jamais parlé de radicalisation. On y voyait des formes extrêmes de violence politique. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque est un phénomène qui vraiment mérite qu'on s'y arrête. Et je pense que celui qui nous a aidé le mieux à comprendre tout ça, c'est Farhad Khosrokhava, dont le nom doit être cité ici. C'est le martyrisme. C'est-à-dire le fait que dans ces violences extrêmes, des gens soit se donnent la mort directement, soit savent qu'ils n'échapperont pas à la mort au cours de leur action parce qu'elle est désespérée. Je vais faire un tout petit détour parce que je trouve que c'est capital. Khosrokhava est quelqu'un qui a étudié d'abord, au moment de la guerre Irak-Iran, donc avant ce dont on parle, le phénomène Basidji. Et Basidji, c'est des jeunes par dizaines de milliers qui, au moment de cette guerre, côté iranien, ont dit « nous, on veut aller en première ligne, on veut être martyrs, on veut mourir ». Et quand Khosrokhava regarde le sens de ce désir de toute cette jeunesse à aller se donner la mort, il s'aperçoit que ce n'est pas du tout pour aider la révolution iranienne, mais c'est parce qu'ils considèrent que la révolution a échoué. Et donc, quand la révolution a échoué, il y a une seule chose à faire, c'est aller dans l'autre monde. Et je pense, je prolonge ce que disait Bartholomew Meyer, je pense qu'il y a quelque chose de très très important dans le martyrisme, qui est, pas toujours, en partie parfois, qui est le désir de quitter ce monde, d'aller dans un autre monde. Donc ce sont des gens qui, par exemple, vont d'abord en Syrie ou en Irak, rejoindre Daesh, mais qui aussi ont envie d'aller au-delà de tout ça, ailleurs de tout ça, parfois pour des raisons très personnelles, de trajectoire individuelle, un criminel qui se sent complètement coincé, par exemple, parfois par désespoir, parfois parce qu'il ne voit plus aucune possibilité d'existence, il se sent coincé, enfin, il y a toutes sortes de raisons. Mais je crois que le martyrisme, ça doit être étudié et compris, parce que c'est spécifique à certaines violences terroristes, mais pas toutes. Les gens d'extrême droite qui vont mitrailler un bar ou autre, oui, ils se donnent la mort après. Et puis très souvent, les attentats d'extrême droite sont commis par des gens qui n'ont pas spécialement envie de se donner la mort. En tout cas, voilà, il faut regarder cette dimension, elle est vraiment importante.
Alors, tout ceci questionne évidemment, et vous l'avez dit, la cohésion de nos sociétés et constitue un espace de critique qui la remet en cause. Plusieurs choses pour aller plus loin. Internet et les nouveaux médias, quel rôle dans l'engagement de certains individus dans l'extrémisme violent? Et puis, la question de la déradicalisation, c'est évidemment compliqué dans la mesure où il n'y a pas de modèle de radicalisation, donc pas davantage de modèle de déradicalisation. Mohamed Ali,
oui, ça, c'est une autre question qui vaut extrêmement cher. Alors, sur le plan des réseaux sociaux, de l'espace dit virtuel, il est important, il est même, j'allais dire, constitutif d'une partie de l'éthique du passage, si vous voulez, au phénomène de radicalité. Mais ce n'est qu'une partie. C'est-à-dire que sur le plan des idées, si vous me passez cette métaphore, le logiciel n'est pas lié à Facebook, à WhatsApp, ce genre de choses, etc. Puisque c'est un espace, j'allais dire, il faut raisonner en termes de champ politique. Donc là où je suis d'accord, c'est que souvent on veut mettre des mots nouveaux pour décrire des réalités qui sont beaucoup moins nouvelles. Dans la mesure où il y a des débats aujourd'hui, par exemple, il faut être extrêmement attentif à cela. Que sont les problèmes de la fameuse Oumma musulmane, par exemple, à supposer qu'elle existe? Comment y faire face? Comment aujourd'hui en finir avec les problèmes d'injustice, d'inégalité, d'occupation, etc., etc. Donc là où, si vous voulez, il y a une forme, j'allais dire, de bouillon de culture religieux-politique, il faut être extrêmement attentif aux livres, par exemple, qui se lisent et qui se vendent, aux idées qui sont, j'allais dire, promues dans les débats télévisés, que ce soit sur Internet ou à la télévision. Donc je veux bien qu'on pose la question, si vous voulez, du moyen, de l'interface. Mais le plus important, ça reste quand même, à mon avis, ce bouillon de culture. Maintenant, sur la question de la déradicalisation, c'est extrêmement intéressant encore une fois, tout dépend du sens que vous donnez au sens de l'engagement violent, par exemple, dans la trajectoire djihadiste. Est-ce que c'est d'abord et avant tout un besoin de radicalité, j'allais dire d'adrénaline? Donc dans ce cas-là, vous essayez de comprendre l'idée que c'est lié éventuellement à une dimension générationnelle, ce que fait par exemple Olivier Roy. Je ne referai pas le débat Roy-Keppel, mais bon, c'est un élément. Est-ce que c'est d'abord ou avant tout lié à une forme de surdosage du religieux ou de, j'allais dire, de fréquences religieuses mal calibrées, ce que fait par exemple Keppel. Donc l'idée qu'il faut introduire de la modération, de la réforme religieuse, qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui au sein de la religion musulmane un débat, j'allais dire, interne. Est-ce que c'est par exemple d'abord et avant tout une réaction politique? Dans ce cas-là, il faut mettre de l'ONU, il faut mettre des diplomates, il faut régler les conflits, etc., etc. Donc ça dépend. Mon opinion, et je terminerai là-dessus, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui une expérience, une expérimentation djihadiste qui touche un certain nombre de personnes. En cela, je pense que ça va prendre 5, 10, 15, 20 ans. Mais je dis ça parce qu'il y a des études qui ont été faites et que grosso modo, là, je reviens à l'élément de temps long, à la question de l'échelle temporelle qui a été mentionnée par Michel, c'est qu'on s'est rendu compte sur le temps plus long, j'allais dire quand on dépasse le journal de 20 heures, si vous me passez cette expression, l'horizon du journal de 20 heures, les mouvements dits terroristes extrémistes radicaux déclinent à partir de deux éléments, deux dynamiques. Soit on les intègre à un champ politique, ça dépend ensuite de quelle forme de radicalité on parle, soit c'est une expérience qui en réalité n'a pas véritablement de moyen d'être combattue. C'est-à-dire c'est une expérimentation sur une génération et demie, deux générations, qui s'essouffle d'elle-même à partir du moment où il y a trop de sang, trop de morts, etc. Des gens qui vous disent « mais à quoi bon ?» C'est une réflexivité, un retour sur son expérience au niveau individuel et collectif qui fait qu'une prise de conscience, un dépassement de la logique de violence et de radicalité qui met fin, j'allais dire, de manière entre guillemets biologique et au sens social, eh bien à cette envie de violence et de radicalité qui a pris quelques milliers de personnes aujourd'hui à notre époque et qui, à mon avis, se continuera pendant encore quelques années.
Bartholomew Conti, vous partagez?
Oui, je partage. Je partage notamment les faits que, alors, comme disait Michel, le mot radicalisation est très compliqué à saisir. Les mots de radicalisation, c'est encore plus. Mmh. Et pose aussi une série de questions aussi éthiques. Par exemple, pourquoi on doit changer la vision, les idées de quelqu'un? De quel droit un État ou la collectivité peut décider de mettre quelqu'un, par exemple, dans un centre, en prison, ou dans un programme pour lui changer les idées? Par exemple, les mots de radicalisation, aujourd'hui, en Europe, on l'utilise de moins en moins. On l'utilise encore en Asie, notamment à Singapour, en Arabie Saoudite, où l'idée, c'est changer la vision des individus avec un contre-discours et beaucoup de moyens, entre parenthèses. En Europe, aujourd'hui, on ne parle plus de déradicalisation, on parle de désengagement, dans le sens de l'idée que les personnes abandonnent les moyens, c'est la violence.
Abandonnent les actions tout en conservant les idées.
Exactement. On ne va pas changer leur idée. Après, là, la réalité est plus complexe parce qu'en réalité, on fait. Il y a différentes approches. Hein, dans ce sens-là, il y a des approches qui sont plus sécuritaires. Donc, l'idée, c'est mettre la personne en condition de ne pas mener des actes violents. Ou on peut aussi penser à la personne, comment on va la réintégrer dans la société. Là, je donne un petit exemple. Il y a un mois et demi, il est en France, le premier revenant de Syrie est sorti de prison. Et cette personne va réintégrer la société. Est-ce que l'incarcération, la punition, la juridisation de son passage en Syrie va nous protéger plus? Est-ce que lui sera en mesure de réintégrer la société? Je pense qu'après la période anxiogène qu'on a vécue après les attentats, en France notamment, en Europe en général, c'est le temps aussi de réfléchir à comment réintégrer une partie de la jeunesse française ou européenne, si on parle de l'Europe, mais aussi ailleurs, on peut parler de la même chose. Je pense comment on va réintégrer une partie de cette jeunesse dans les mécanismes de participation, d'engagement. Insiste, pour moi, il ne faut pas penser en termes de désengagement, en termes de ne pas s'engager. Oui, les moyens, ce n'est pas les bons. Trouvons un autre moyen, mais faire en sorte que ces personnes continuent à s'engager dans la société par d'autres moyens. Mais qu'elles soient partie intégrante de la société, pas qu'elles soient mises seulement en dehors de la société. Parce que ça, la vérité, qu'on crée, et aujourd'hui, c'est un grand débat sur ce qui se passe dans les prisons, dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation, parmi les professionnels, parmi les travailleurs sociaux. Quelles sont les conséquences d'une politique tout sécuritaire où tout se base sur la méfiance? Comment on reconstruit des liens de confiance avec une partie de notre jeunesse? Parce qu'ils sont partis, ce ne sont pas quelques individus, ça c'est, c'est une partie importante de notre société. Ce sont des jeunes grandis dans les écoles françaises, dans nos quartiers. Donc l'important, c'est comment on les réintègre dans la société.
Plusieurs centaines, évidemment. Alors, en conclusion, parce que malheureusement, le temps passe très vite, Michel Vivorca, la question de la compréhension par la France de la radicalisation djihadiste et l'organisation de la prévention, puisqu'on parlait de ceux qui sont partis en Syrie revenus, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a plaidé pour le rapatriement des djihadistes français détenus en Syrie et en Irak. La position du Quai d'Orsay, donc le ministère français des Affaires étrangères, reste, elle, très ferme. Ils doivent être jugé sur place. Quelle stratégie vous semble la plus adéquate?
Il n'y en a aucune qui soit bonne. C'est surtout ça le problème. Et donc moi je pense qu'il faut veiller à l'application du droit et de la loi le plus strictement possible et non pas inventer des choses un peu neuves. Le problème dont on vient de parler, c'est que c'est à la fois un problème domestique, intérieur à la société française et un problème international. Et donc les questions intérieures à notre pays et les questions qui se joue ailleurs, se mêle, interfère. La justice est démunie. Nos magistrats, ils n'ont pas l'habitude de gérer des affaires internationales. Et moi, je ne vois pas aujourd'hui d'autre réponse que vraiment l'application des règles du droit, tel qu'il est, en se posant en même temps des questions sur les droits de l'homme. On sait qu'aujourd'hui, ils sont quand même assez fragilisés.
Si je peux me permettre rapidement, en fait, ce serait un très mauvais message envoyé que l'idée de dire que l'exception, entre guillemets, djihadiste doit se traiter par une exception judiciaire. Je pense que c'est la normalité juridique, morale, républicaine qui doit répondre à ce défi-là, parce que ça voudrait dire que certaines personnes aujourd'hui échappent à notre réflexion du commun, ce qui est commun à ce qui est juste et moral au sein de la République.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à chacun. Michel Vivorca, je rappelle que vous êtes président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et co-responsable du panel international sur la sortie de violence. Vous êtes sociologue et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier à paraître le 12 mars prochain pour une démocratie de combat chez Robert Laffont. Mohamed Ali Adraoui, chercheur à la London School of Economics et auteur de Comprendre le salafisme aux éditions L'Harmattan. Et Bartolomeo Conti, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, participant au projet DER, dialogue sur la radicalisation et l'égalité. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Calédec et Nathalie Laporte. Demain, deuxième volet sur le rôle des politiques publiques contre la violence, la réconciliation et la justice, la mémoire. À demain. L'atelier des